Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Sport. On va vous accompagner pendant une heure pour parler de sport évidemment. Retour sur le match du 15 de France. Comment passer à côté de ce match? Pour m'accompagner aujourd'hui, il va peut-être être la voix de la raison de cette émission, celle qui va nous ramener sur terre, nous calmer avec des choses factuelles enrobées de belles phrases et de petites piques dissimulées. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Oh, c'était un bonjour.
Bonjour, très chantant. J'essaie de mettre un peu de gaieté à cette soirée très compliquée.
J'avais pas envie de la faire. Voilà, je vous avoue, j'avais pas envie de la faire cette émission. Voilà, j'avais envie de rester chez moi, sous ma couette, à pleurer comme tout le monde. Parce que hier, c'était pas suffisant. Au lendemain donc de ce match du 15 de France, j'ai reçu un message. D'un match du 15 de France, j'ai reçu un message de la deuxième personne qui est avec nous aujourd'hui, me disant: rappelle-moi quand les Bleus joueront bien. Résultat, elle est avec nous ce soir et nous dira si elle a trouvé que les Bleus ont bien joué. Bonjour Anne-Françoise.
Et bonjour. Vous m'avez envoyé de chanter aussi.
Oui, vous m'avez envoyé ce message après un France-Uruguay. On se retrouve qu'après des matchs de merde, c'est magnifique.
C'est ça. Peut-être qu'on se porte pas très chance. C'est peut-être de notre faute.
Non, c'est complètement de la leur.
Il y a tellement de fautes à faire.
Voilà, et justement, on va en parler parce qu'au programme de 7h, on va retrouver les tops et les flops de la semaine de l'équipe en plateau. À suivre aussi un entretien face à face avec monsieur Maxime Rouquier, directeur de l'association Rugby No Limit, une association qui met en œuvre des actions favorisant la pratique des sports et plus généralement de l'insertion par le sport et par des actions éco-citoyennes. Pour lancer le débat qui va être un petit peu un débrief du match du 15 de France, l'équipe essaiera aussi de répondre dans un premier temps à cette question. Est-ce l'Afrique du Sud qui a gagné ce quart de finale ou c'est l'équipe de France qui a perdu? Ça fait un petit peu écho à un dernier débat qu'on a eu au tout début de cette émission. On terminera avec les pronostics et analyses d'un match, mais on commence tout de suite par l'information en région et sportive. C'est avec Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Cinquième victoire en 6 matchs pour le Phoenix Handball.
Oui, le Phoenix poursuit sa belle série en dominant Aix-en-Provence 33-26. Toulouse est toujours quatrième et attend un faux pas de Montpellier, Paris ou Nîmes pour monter sur le Strapontin.
Réussite aussi pour le Toulouse Métropole Basket.
Oui, le Toulouse Métropole Basket a su s'imposer 53-55 contre Chartres. Les Toulousaines ont enchaîné 2 succès en 2 matchs de Ligue 2 féminine.
Le Toulouse Olympique 13 s'incline en finale de Championship.
Et mauvaise nouvelle, les joueurs du Toulouse Olympique 13 affrontaient le London Broncos lors d'une finale de Championship. Et pour la promotion en Super League, l'élite du championnat anglais de rugby à 13, les supporters ont vu les Toulousains réaliser une première période honorable avant de fléchir lors de la deuxième. Score final 14-18.
Un nouvel exploit pour Kylian Jornet, sportif de l'Ultra Trail et du ski alpinisme.
Il a traversé les Pyrénées, terre de son enfance, en 8 jours, soit 155 heures de course, 43 000 mètres de dénivelé et 486 km parcourus. L'aventure a démarré le 2 octobre dernier au pied du pic de la Frondella pour rejoindre le 10 octobre au pic d'Esta, point culminant de Catalogne.
Et le club des supporters du TFC a fêté ses 30 ans.
Les Indians Tolosa avaient donné rendez-vous samedi en fin de journée à ses abonnés. Les Indians, comme on les surnomme, fêtaient les 30 ans de ce club qui a vu le jour en 1993. Ses supporters mettent l'ambiance dans le virage Brice-Taton au Stadium de Toulouse à chaque match du TFC et se déplacent à l'extérieur pour porter l'équipe toulousaine. Leur club de football, le TFC, évolue de nouveau en Ligue 1 et a remporté la Coupe de France la saison dernière.
Ce qui leur permet de jouer l'Europe. Merci beaucoup Corinne Saint-Félix, on vous retrouve la semaine prochaine. Et justement, la Coupe d'Europe avec le TFC, un match qu'on attend tous, TFC-Liverpool, ce sera le 9 novembre. Avant ça, tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Première partie de cette émission, les tops et les flops de cette semaine, quels sont-ils? On commence par vous, Anne-Françoise.
Bon, je vais commencer par le flop. Le flop, c'est la défaite du 15 de France. Non pas que je trouve qu'ils aient si mal joué que ça, mais c'est quand même une super grosse déception parce que j'y croyais à fond, en fait. Je me suis dit, c'est bon, c'est cette année, on a une super équipe, c'est chez nous, on était prêts, on était là, on avait battu les Néo-Zélandais, enfin, c'était incroyable. Et là, hier, c'est le drame. C'est le drame, voilà. Donc mes enfants ont pleuré hier soir après le match.
Que les enfants ?
Oui, parce que nous, on est restés dignes.
Pour rester dignes, voilà. C'est ça.
Voilà. Mais bon, j'ai quand même un petit top. Du coup, le top, il a été raconté par Corinne là, sur le Flash. C'est l'ultra trailer Kylian Jornet qui a fait 486 km et 43 000 mètres de dénivelé. Moi, il y a 3 semaines, j'ai fait 12 km et 300 mètres de dénivelé, j'étais morte. Donc, je ne sais pas comment il a fait. Donc,
moi, j'ai monté les escaliers, j'ai mal au genou.
Très impressionné par ça. C'est hyper impressionnant. Enfin, vraiment, c'est surhumain, en fait, ce qu'il fait.
Ouais, c'est ça, c'est moi, des qualités mises sur un délai énorme en plus, parce que ça dure un temps, cette histoire. Et donc voilà.
Ah, et puis, il enchaîne, et puis, ouais, il faut le mental, et puis, enfin, ouais, incroyable.
C'est un peu comme les gens qui font les Iron Man.
Donc, il y avait la Coupe du Monde.
Il y a Jalabert qui a gagné. On en avait
Laurent Jalabert, ouais, dans sa catégorie de plus de 54, c'est me ça. Semble-t-il. Bon,
après,
54 ans.
Les vétérans, c'est très fractionné en fait. Tous les 4 ans, 5 ans, ça.
Ça reste que je le ferai pas. Hein.
Ah bah non, mais enfin. Ouais. Non, c'est vraiment. C'est des efforts qui sont. Enfin. Quand on sait les ressources physiques et mentales que ça demande, pour avoir un peu touché des courses en longue distance, c'est très très impressionnant. Ouais.
C'est là où on se dit que le corps humain est bien fait au final.
Ah non, mais ce qu'il est capable d'encaisser, le corps humain, c'est invraisemblable.
On en repensera quand on se tapera le petit doigt de pied dans un meuble. Erwan, votre top et votre flop, même si le flop, on le sent venir.
Bah, pour le coup, le flop, non. Moi, j'ai décidé d'être...
Original.
D'être original, voilà. Ouais. J'ai décidé comme flop de prendre la Norvège au football. Donc, pour les qualifications à l'Euro, j'ai décidé de sortir un peu du ballon ovale, mais de rester dans le sport d'équipe. Donc voilà, la Norvège qui avait un groupe qui n'était pas forcément hyper facile, donc où il y avait l'Espagne et l'Écosse notamment, mais bon, il y a quand même deux très gros stars en Norvège, qui sont Erling Haaland et Martin Ødegaard, et au final, bah, elles n'ont pas du tout réussi à maintenir le suspense, elles n'ont même pas réussi à essayer d'entretenir un peu le mythe d'une qualification, un tournoi européen pour leur pays. Voilà, il y a eu des matchs très compliqués contre des toutes petites nations, notamment contre Chypre. Voilà, si quelqu'un peut me citer un joueur de Chypre ici, voilà, je pense que personne n'arrivera à le faire. Donc, c'est vraiment très compliqué de comprendre comment une équipe qui a... Alors ça, c'est un sport d'équipe, donc tous les joueurs comptent. Mais avec deux aussi gros stars et avec quand même quelques joueurs qui jouent dans des gros championnats, c'est compliqué de comprendre comment ils en sont arrivés là.
Bah, c'est à l'exemple de Messi qui à une époque était dans son équipe nationale mais ne faisait rien avec l'Argentine. Bon, après il y a eu la génération qui est arrivée et on sait ce qui est arrivé, on n'a pas envie d'en reparler parce que là encore aussi ça va rappeler de mauvais souvenirs, mais peut-être que la Norvège sera peut-être championne d'Europe dans quelques années.
Championne d'Europe, ouais, ça serait quand même un sacré exploit.
Ah ben, la Grèce l'a fait en 2001.
Et le Danemark avant.
En 2002, pardon. 2001, oui. Non, 2000.
2004.
Contre
le Portugal, voilà. En finale, à Lisbonne.
Au Portugal.
Ouais,
voilà. Un certain Cristiano Ronaldo qui venait de commencer.
C'est ça.
Et qui a fini en pleurant.
Et oui. Voilà. Et ben, en même temps, c'est un petit peu... Non, on va pas tout à fait en parler tout de suite. Erwan, votre top. J'espère que vous en avez un, quand même.
Oui, bien sûr. J'ai les All Blacks. Alors, on va aller voir de l'autre côté du tableau, que celui qui va concerner notre débat. Et voilà, les All Blacks, je les ai trouvés absolument géniaux. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je me suis dit, c'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés depuis 2 ans. Alors, elle reste quand même en haut du panier. Mais c'est clairement une équipe qui est capable de pêcher dans les grands rendez-vous. Et quand je me dis que l'Irlande a entretenu cette idée, ce fantôme de l'équipe impossible à bouger, qui pratique un rugby d'école, les yeux fermés, etc. Bon, au final, je n'ai pas du tout retrouvé les Irlandais. Et au final, je me dis, si, peut-être si je ne les ai pas retrouvés, c'est peut-être parce que les All Blacks, ils ont été absolument géniaux. Et notamment, ils ont très bien résisté sur en tout 20 minutes en infériorité numérique. Et au final, bah voilà, ils sortent vainqueurs d'un match où ils n'étaient pas favoris, ce qui est extrêmement rare pour un quart de finale de Coupe du Monde où les All Blacks ne sont pas favoris. Mais ils vont aller en demi-finale contre une Argentine contre qui ils sont cette fois largement, il en manque un quatrième, largement favoris.
Moi j'en aurais peut-être mis un cinquième.
Oh, voilà, peut-être. Et il ne faut pas être trop gourmand non plus.
Point trop d'infos, comme disait maman. Petite actualité qu'on n'a pas pu mettre dans le flash qui vient de tomber. Hugo Gaston a gagné en 16e de finale à l'ATP d'Anvers, en Belgique. Voilà, 2-7-0.
Voilà, bah on salue le Toulousain.
Merci pour cette info.
Voilà, Hugo Gaston qui est 96e au classement ATP. Il a gagné face à un 82e, un autre Français là aussi. Moi, mon top, c'est pas vraiment un top, c'est plutôt une surprise assez insolite. C'est une salle de sport portative qui prend place en extérieur. Ça se passe à Toulouse. C'est un véritable container monté sur une remorque qui prend place sur un parking. Et ça permet à des salariés d'entreprise de faire du sport sur leur temps de pause, peut-être entre midi et deux, voilà, de faire une petite séance de sport et puis se mettre bien avant de reprendre le travail. Voilà, c'est un container où il y a plein d'équipements qui sont installés. Puis ensuite, chacun fait sa session de sport. C'est une idée toulousaine.
Donc, du coup, on fait sa session de sport dehors.
On fait ça, voilà, dehors.
Donc en fait, c'est une boîte à matériel.
Voilà, c'est une
c'est
boîte à jouer.
C'est comme un bibliobus, mais pour le sport.
C'est un bibliosport, voilà. Mais c'est dans un conteneur.
Sportobus.
Ah, sportobus plutôt.
Sportobus.
Bah non, parce que c'est pas vraiment un bus, c'est un conteneur sur remorque.
Ouais, non, d'accord.
Oui, en tout cas, il n'y a pas de livre, donc c'est pas.
Non, c'est pas biblio.
Peut-être qu'il y a un concept à faire, Erwan, je vous laisse le faire. Une bibliothèque
pour
sur
muscler
avec,
les biceps et le cerveau.
Eh bien voilà.
Attention, on tient quelque chose.
Hein. Ça, c'est bon, on a un slogan déjà.
Voilà, le dites pas trop fort, on va nous piquer l'idée. Mon flop. 14-4, voici le tableau d'affichage à la mi-temps du match entre le TO 13 et les London Broncos. Mais les Toulousains perdent la possession peut-être de leurs moyens et se sabordent en deuxième mi-temps de la finale de Championship qui permettait la montée en Super League. Nous n'aurons donc pas droit à un match entre les Dragons catalans et le TO 13 l'année prochaine. Voilà, c'était un match qu'on a vu il y a deux ans entre le club de Perpignan et le club de Toulouse. C'était une belle soirée au stade Ernest Vallon. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. Toulouse qui va rester en deuxième division de rugby à 13. Voilà. Après, est-ce que la situation actuelle du TO 13 aurait permis d'assumer cette place en D1 on espère peut-être avoir quelqu'un du Toulouse Olympique peut-être pour répondre à cette question. Voilà. L'affaire est en cours, sachez-le. Qu'est-ce qu'on en pense pour... Entre ça et le 15 de France, je vous cache pas que j'ai passé un week-end pourri.
C'est vrai que...
Parce que je l'ai vu, le match du Théo, je suis là, ouais, trop bien, en plus il faisait beau, les conditions idéales.
C'est vrai qu'on bah dit le Théo, le problème, c'est que s'ils étaient montés, économiquement...
Il faut assumer, hein, quand même. Hein.
Oui. Voilà. Oui, après, voilà, après il y a des aides qui ont été faites de la région, du département et de la mairie de Toulouse, qui vont peut-être permettre au Théo de se sauver. Enfin, l'affaire est en cours, donc à voir si tout ça va se décanter au fur et à mesure. En tout cas, on espère voir le Théo rester en deuxième division et peut-être monter l'année prochaine, qui sait.
Oui.
C'est, non, bah, voilà,
tous les ans, on a une chance.
Tous les ans, on a une chance, oui.
Presque.
Ouh, ça, c'est un bon esprit. Ça, c'est quelque chose qui nous remotive.
Ça, j'essaye de rester positive.
Oui, là il faut, ouais, parce que le week-end il n'était pas terrible.
Là, vraiment,
oui. Heureusement qu'il n'y a pas eu de la F1, sinon les Français auraient réussi à rater leur week-end. Eh, attendez, c'est ce week-end que ça arrive. On va en parler sûrement la semaine prochaine. En face à face, aujourd'hui, on le retrouve tout de suite. C'est Maxime Roux qui est directeur de l'association Rugby Nos Limites.
Esprit Sport, le face à face.
En face à face, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Maxime Rouquier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour nous parler d'une association Rugby Nos Limites, alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association ?
Super, on va parler de la genèse de l'asso. À la base, je suis cofondateur du rugbyministère.fr, qui est la rede de rugby, qui est un média. Et au fur et à mesure des expériences, on a voulu fédérer nos passionnés du site internet et les réunir autour de bars, de restos et aussi d'un gros événement qui s'appelle le Rugby Nos Limites. Qui a été créé donc il y a eu 8 ans maintenant. Ça a été c'est un excellent événement qui a réuni jusqu'à 1000 joueurs en 2019 sur le terrain de la côté de Toulouse. Et en 2019, en fait, c'est un grand virage pour l'événement. On a 10 exilés qui se sont pointés au moment où on montait l'événement. Et ils ont demandé s'ils pouvaient venir jouer à l'événement. Ils nous ont aidé à monter l'événement, à jouer au rugby avec nous, à commencer à leur apprendre des rudiments de rugby. Puis on leur a proposé donc de participer gratuitement à l'événement. Et là, c'était un coup de cœur incroyable. 10 personnes qui nous ont aidés comme des fous, qui se sont amusés et qui ont été très bien intégrés. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas s'arrêter là. Et on a commencé à faire des entraînements tous les lundis, à les intégrer ainsi à la société française. Et pour ceux qui pouvaient commencer à travailler, ouvrir le réseau de rugby pour pouvoir travailler. Et donc, on est devenu une asso d'insertion par le rugby en faisant cette opération d'abord avec ces personnes-là. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à intégrer plus de 150 personnes désormais. Donc, on est une asso d'insertion par le rugby. Et l'événement est toujours présent et tous les ans à l'Onagué, comme d'habitude, avec toujours autant de monde et toujours autant de folie.
Alors, il y a plusieurs buts, vous l'avez rappelé, aussi l'insertion professionnelle. Comment vous faites pour être sur tous ces plans à la fois ?
Sur l'insertion, alors ce qui est intéressant sur l'insertion, c'est que on est sur les besoins primaires des personnes, quoi. C'est-à-dire que on a beaucoup de personnes qui sont en difficulté pour trouver un emploi. Pour nous, alors le début de la situation, c'était le Covid. Et le Covid, ben, c'était autrement plus tendu que maintenant pour aller chercher un travail. Donc, on travaillait très fort pour réussir à placer les gens. Et désormais, le marché de l'emploi est beaucoup plus simple. Donc, aujourd'hui, c'est un accompagnement différent, mais qui est nécessaire pour les personnes qui ont du mal à parler français, à se présenter, à se vendre. Et donc, il faut réussir à lever tous les freins ou la majorité des freins pour l'emploi. Et le rugby est un excellent moyen pour y arriver.
Donc on rappelle que c'est pas un club, c'est une association, il n'y a pas de licence à proprement parler pour participer à cet asso.
Alors ce n'est pas nécessaire, mais on est un club FFR, on est agréé par la FFR, et la licence n'est pas une obligation parce qu'on a du public de passage, hein. Des fois on a certaines personnes qui viennent essayer et puis n'accrochent pas, et certaines, on a, même celles qui accrochent, des fois on a... elles trouvent un travail et puis elles travaillent le soir, donc c'est compliqué de venir à l'entraînement et tout. Donc, pas besoin de faire de licence. Après, on a une assurance générale qui nous permet de couvrir la pratique du rugby avec nous tous.
Erwan, qui avait une question pour vous.
Oui, bonjour. Effectivement, le rugby, c'est un sport qui n'est pas forcément très connu de la plupart des personnes qui peuvent venir de pays qui sont parfois lointains et qui n'ont pas la culture de l'Ovalie. Comment on fait en sorte d'éviter d'avoir de l'appréhension et comment on fait en sorte de pouvoir expliquer les règles à ces personnes-là quand elles ne parlent pas toujours français et quand c'est parfois compliqué de pouvoir s'entretenir avec eux?
Ouais, super, c'est une bonne question et c'est tout l'intérêt de venir au rugby, c'est que dessus il faut se creuser le cerveau pour pouvoir s'intégrer. Et donc du coup ça oblige à écouter du français, parler un peu de français et essayer de s'intégrer. Et c'est le gros avantage de cette pratique parce que comme tu peux le dire effectivement c'est pas très simple. Donc on commence par le rugby à toucher déjà, ce qui simplifie beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de ruck et toutes les règles compliquées que je peux très bien connaître. Et ensuite, on montre par le mouvement comment ça se passe et puis ça permet à ces personnes-là de parler français. Donc c'est en fait d'une faiblesse, ça devient une force pour notre projet.
Les objectifs pour cette année, est-ce que vous vous en fixez? Est-ce que vous dites on doit mettre tant de personnes en réinsertion? Est-ce qu'il y a des objectifs fixés chaque début d'année ou chaque début de saison puisque vous êtes un club?
Alors, on a des objectifs d'insertion, puisqu'on est subventionné par des organismes comme l'Europe, comme le PIC Apprentissage qui est représenté par l'État. Et quand on répond à des appels à projets, on fixe des objectifs. Donc, nous avons mis des objectifs très clairement. Rugby No Limits, on est présent sur Toulouse et Montpellier. Et sur Toulouse, il faut accompagner une centaine de personnes. Et à Montpellier, par exemple, on est déjà à 80 sur l'année.
80 sur toute l'année?
Ouais, ça performe très très bien à Montpellier depuis qu'on a lancé le PIC Apprentissage, c'est-à-dire que c'est le modèle d'encourager les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et de l'immigration à devenir apprentis. C'est le programme que nous tenons à Montpellier.
Ce gros événement dont vous parliez au début qui se déroule à la fin, comment les personnes, les exilés le ressentent? Est-ce que vous sentez vraiment qu'arriver une fois à la fin de la saison, est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment d'intégration, de faire partie de quelque chose? Est-ce qu'ils sont... C'est quoi leur sentiment? Ils sont heureux d'être là?
Ouais, c'est une parenthèse enchantée quand même, c'est génial. C'est vraiment génial parce que ils se sentent très valorisés. J'ai le souvenir de l'année dernière quand ils sont montés sur le podium à la fin de l'événement. Ils ont été applaudis chaleureusement par les 850 joueurs qui étaient là. C'était un très très bon moment. Et ils vivent une parenthèse enchantée vraiment parce que c'est un univers qu'ils connaissent pas du tout, qui est à la fois festif, qui est à la fois sportif et qui leur permet d'être ensemble et de découvrir de nouvelles personnes. Donc ouais, c'est un moment important de l'année pour l'association et pour nos bénéficiaires.
Rompre l'isolement social, partager la culture autour du sport. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations alors qui n'ont aucun rapport avec le rugby pour aider ces échanges?
Ah oui, on a des atomes crochus avec pas mal d'associations, des centres sociaux comme la SCOT. On a des associations comme Solidarité Migrants qui est à Patozoa à Toulouse et qui fait un travail formidable. Le travail de Solidarité Migrants, je crois qu'ils accompagnent plus de 800 personnes à parler français. Donc c'est les demandeurs d'asile, c'est du travail de très haute volée. Et après on a d'autres assos sportives et non sportives avec qui on traite régulièrement.
Vous faites beaucoup de tournois qui réunissent beaucoup de personnes. Comment vous faites pour sensibiliser ces gens qui viennent à ces tournois autour de vos sujets?
Ouais, bah ça c'est un enjeu aussi important, c'est faire bouger les lignes du monde du rugby. C'est un monde qui me passionne et qui pour moi a besoin encore d'éducation de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on est un sport inclusif. Une chose que le rugby n'a pas toujours réussi à faire et qu'il faut aller encore plus loin là-dessus. Et donc effectivement, quand on déplace l'équipe du Rugby No Limit dans des tournois, il est important d'aller parler à toutes les équipes, leur expliquer notre présence, qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre objectif. Et c'est plutôt bénéfique.
Est-ce qu'à terme, vous nous avez dit que vous faites du rugby à 5, est-ce qu'à terme, peut-être, une équipe de 15 pourrait se monter?
Ouais, je sais que ça ferait pas mal de personnes. Faudrait pour ça déjà, il y a le sujet le majeur, je pense, que ça serait d'avoir intérêt à un clubhouse. Dans la région de Toulouse, c'est la gare. Ça serait déjà un premier point logistique très compliqué. Alors pourquoi pas, mais pourquoi pas, c'est pas dans l'objectif à court terme, parce que je fais partie des gens qui ont créé le club de l'Onagay il y a 20 ans maintenant, et je sais à quel point c'est très dur de créer un club de rugby compétitif de toutes pièces, c'est un autre sujet, quoi. C'est-à-dire que j'ai peur que si on commence à s'intéresser à tout l'aspect compétitif et tout, mais c'est au profit de l'insertion. Oui,
ça va perdre un petit peu cet aspect, l'aspect premier de cette association.
Bah alors, c'est un peu la crainte, réussir à faire les deux en même temps, ben ça serait superbe, hein, vraiment, parce que ça ferait une caisse de résonance supérieure. Mais par contre, c'est un enjeu supérieur, et donc il faut réussir à le financer, réussir à le construire. Hein, c'est un gros défi, quand même.
Et justement, les défis, c'est se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qui vous attend pour cette fin d'année 2023, début 2024?
Bah, la fin d'année 2023, c'est surtout le grand jeu de la fin de la Coupe du Monde. Hein. On a un mois de folie à vivre encore, parce qu'on a une Coupe du Monde en France et le rugby No Limit le sent passer, puisqu'on a beaucoup de sollicitations, ça remue beaucoup, et donc c'est très chouette. La grande nouveauté aussi, c'est que le rugby No Limit a pris un stand au sein des Halles de la Cartoucherie. Ils se sont montés donc maintenant il y a un mois, et donc on a plus de personnes assez hallucinantes qui passent et qui viennent vous découvrir et qui intègrent les entraînements de rugby grâce au hall de la cartoucherie. Donc ça, c'est un bel enjeu. Et on a aussi un partenariat avec le club du Touek, donc qui est juste à côté des Halles, qui est en train de pointer le bout du nez. Et c'est très bien de réussir à faire un partenariat avec ce club qui a souvent été investi dans les quartiers, notamment en Palo, sur lesquels on pourra construire encore des projets intéressants. Et sinon, on a des appels à projets en cours en ce moment, avec notamment le Greta, ou Axe Solutions, un gros organisme de formation, Greta, le plus gros même, qui nous propose de faire de l'apprentissage et de l'insertion à travers le sport. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont en train de se soigner sur le côté du sport qui va réussir à insérer des personnes.
Justement, vous nous avez parlé de vos joueurs et de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'ils ont pu assister à un match au Stadium cette année?
Ah ouais, je les ai invités sur Japon Samoa. France 2023 m'a fait gentiment invité les bénéficiaires de l'asso à venir voir ce match. Donc c'était un super moment. Ouais.
Pour le prochain tournoi, est-ce que vous avez une date à nous communiquer, un rendez-vous à nous donner?
Dernier week-end de juin.
Dernier week-end de juin.
C'est comme d'habitude. Et cette année, en plus, il y a la finale de Top 14 qui sera diffusée sur écran géant le samedi soir. Donc ça fera encore plus festif.
Ça sera encore plus festif. En plus, ce sera l'arrivée de cette belle période de juin. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour vous suivre, peut-être même vous soutenir?
Alors, sur Internet, vous trouverez le Rugby No Limit sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Le site Internet, évidemment. Et donc, comme je disais, on a un stand au hall de la cartoucherie où vous pouvez nous voir en physique, et c'est encore mieux.
Est-ce qu'il est encore possible peut-être de s'inscrire dans votre association pour cette année?
Ouais, on reçoit régulièrement des bénévoles, des joueurs, des partenaires. On est très ouvert sur. Ça serait incomble que nous, on ne soit pas ouvert à l'arrivée de nouvelles personnes.
Eh bien, voilà.
On est effectivement très ouvert.
Ben, très bien. RugbyNoLimit.com pour ceux qui veulent aller voir le site internet. Tout y est affiché. Il y a même contact et un onglet recrutement. Comme ça, au moins, on vous laisse aller y faire un tour. Merci beaucoup, Maxime Rouquier, d'avoir été avec nous.
Un plaisir. Merci. Ouais.
Allez. est de retour dans l'émission dans quelques instants. Nous allons retrouver la chronique d'Anne-Françoise Marie qui nous parlera écologie. Ça tombe bien, ça rime. On monte sur le bateau avec Laurent Voulzy et Santiano. Et juste après, la chronique et le débat dans Esprit Sport.
C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano, 18 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot, Iseo, Santiano. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, Iseo, Santiano. Au pays j'irai voir Margot, à son doigt je pars.
Esprit Sport, la chronique.
Allez, retour dans l'émission et c'est Anne-Françoise Marie qui se colle pour la chronique aujourd'hui.
Oui, alors pour la chronique, je vais vous proposer de vous projeter un tout petit peu dans le futur. Je vais vous parler de la Coupe du Monde de foot, on va changer un petit peu de sport, de 2030. Ça paraît un petit peu loin comme ça, mais l'organisation a déjà commencé puisque la FIFA a annoncé ce mois-ci qu'en plus d'avoir lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc, il y a aussi trois matchs qui seraient délocalisés en Amérique du Sud, dont la cérémonie d'ouverture en Uruguay. Alors apparemment, c'est pour fêter les 100 ans de la première Coupe du Monde qui a lieu en Uruguay en 1930. Alors, On a déjà vu des compétitions se dérouler dans une seule ville, bon ça c'était il y a un petit peu longtemps, puis après dans plusieurs villes d'un même pays, puis après les compétitions de cette envergure, maintenant ça a lieu dans plusieurs pays d'un même continent, comme par exemple la Coupe du Monde en 2026 qui aura lieu au Canada, États-Unis et Mexique. Pour 2030, alors là carrément on passe sur trois continents différents. Bon, avant de se demander si c'est une bonne chose ou pas, je vous propose de se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que cette Coupe du Monde de 2030 se déroule des deux côtés d'un océan ? Bon, la première raison, c'est l'augmentation du nombre d'équipes en jeu dans la compétition. Alors, les premières compétitions de la Coupe du Monde de foot, c'était à 16 équipes. Bon, bah maintenant, on est 32 depuis 98, et puis ce sera 48 à partir de 2026. Donc autant dire que plus on met d'équipes, plus on a de matchs, donc ça veut dire que ben, on a besoin de plus en plus de stades pour les faire jouer en même temps. Bon, l'avantage de l'augmentation du nombre d'équipes, c'est aussi que plus on a de pays à participer, plus on gagne de l'argent, voilà. Donc, il faudra donc plus de matchs, plus de stades aptes à recevoir les supporters de plus en plus nombreux parce que ben, un stade bien rempli, ça rapporte aussi plus d'argent. Donc voilà, ça commence à être difficile pour les pays, un pays seul, d'organiser ce genre de rencontres. C'est pour ça qu'il y a des candidatures groupées. Donc en fait, pour 2030, les deux candidatures qu'il y avait, c'était Espagne-Portugal-Maroc d'un côté et l'Amérique du Sud avec Argentine-Uruguay, Chili et Paraguay de l'autre côté. Donc la FIFA a choisi de ne pas choisir. Donc ils ont fait le choix de la sécurité avec la candidature de l'hémisphère nord, mais ils ont aussi donné donc du coup 3 matchs à l'Amérique du Sud, le retour sur les terres de la naissance de la Coupe du Monde. Donc comme on est un petit peu dans une société du en même temps, donc là on voit bien que voilà, la FIFA a choisi de se mettre en fait des deux côtés de l'Atlantique. Bon alors, est-ce qu'il y a des conséquences à une décision comme ça ? La première préoccupation, ça peut être la quantité de transport qui va être nécessaire, particulièrement le transport aérien que les différents supporters ou les différentes équipes vont emprunter pour se rendre au match. Augmenter le nombre de pays, c'est évidemment augmenter le nombre de supporters et donc leur transport. Certaines équipes joueront probablement en Amérique du Sud et en Europe quelques jours plus tard, et les supporters, sans doute, les suivront. Bon, ils ne vont pas traverser l'Atlantique sur un voilier comme Santiano, hein, on est d'accord, ils prendront l'avion.
Ça aurait été une bonne idée.
Ça aurait été sympa, mais il n'y a pas le temps, en fait. Parce que c'est long de traverser l'Atlantique. Donc, évidemment, ça va faire des émissions de gaz à effet de serre. Alors, quand on sait que 80% des émissions de CO2 sur ces grandes compétitions mondiales là, sont dues au transport, bah là, on se doute bien que la facture va carrément augmenter. Évidemment, plus on augmente la distance entre les lieux de la compète, plus on augmente les déplacements, plus on augmente les émissions. C'est mathématique, je peux vous l'expliquer. Donc, quand on est dans un contexte où le monde entier doit réduire son empreinte carbone pour essayer de se dire, espérer en fait qu'on ne va pas voir se déclencher en chaîne des conséquences sur notre environnement, il y a quand même pas mal d'associations écolo qui dénoncent la légèreté de la décision de la FIFA. On peut aussi se préoccuper de la pression environnementale qui va être mise sur ces pays, en particulier en Amérique du Sud. Parce que d'ici 2030, les températures globales auront augmenté, on le sait déjà, et la compétition aura lieu en été, en fait. Donc, de toute façon, dans ces pays-là, pour maintenir des stades en état de bien fonctionner, ben, ça demande pas mal d'eau, et c'est des pays qui sont déjà sous une pression, la pression sur l'eau est déjà énorme. Donc, évidemment, l'attribution de la Coupe du Monde en 2030 à ces 6 pays... c'est un coup politique, c'est aussi un coup financier. Bon, le président de la FIFA est ravi, hein. Il a dit sur LinkedIn qu'il était très heureux et qu'il doit dire merci aux 6 confédérations continentales. Il a aussi ajouté que les nations se sont unies, non seulement dans une célébration du football, je le fais de façon un peu dramatique, mais il l'a dit un peu comme ça, mais aussi dans la cohésion sociale et culturelle unique. Un grand message de paix, de tolérance et d'inclusion. Il a fini en disant qu'en 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique. Bon, moi, je trouve que ce qui va être unique, c'est plutôt l'empreinte environnementale de la compétition sportive. Ça va être une empreinte sur le monde entier, un monde partagé entre les supporters de foot et ceux qui n'en ont rien à faire.
Il faut croiser les doigts pour que les avions verts soient mis au point avant 2030.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
On ne peut pas espérer peut-être un avion vert.
Bah, d'ici 2030, déjà non, ça c'est sûr.
Ça peut exister, mais que pour les petits courriers, et c'est l'hydrogène, donc quel marche les avions, demande énormément d'énergie,
ouais,
pour être...
Je sais pas,
mis à
positif,
part à le produire en Islande. Alors après, on pourrait se dire, en essayant de tirer le positif au maximum, que comme il y a plein de lieux, enfin, du coup il y a 2 lieux, les gens feront moins de trajets pour aller voir quand même la Coupe du Monde. Mais moi, ça, j'y crois pas du tout.
C'est ce que j'avais pensé d'ailleurs au début. Je me disais, oh, c'est une bonne idée, ils font la Coupe du Monde sur différents continents pour que les supporters aient pas à se déplacer et qu'ils puissent venir de leur continent. Et en fait, pas du tout. Voilà.
C'est une idée, mais abominable. Quand j'ai vu ça, mais pourquoi faire ? Pourquoi ? Enfin,
ah, mais déjà,
pourquoi.
Mais, déjà, Espagne, Portugal, Maroc. Après, on se doute bien que le Maroc a envie d'accueillir la Coupe du Monde et qu'ils peuvent décemment pas l'accueillir tout seul.
Surtout ça, pas ça avec les récents résultats qu'ils ont eus.
Et l'Espagne a un excellent réseau de trains qui coûte très peu cher. Donc,
Les autoroutes sont gratuites.
Ouais, voilà. Mais pour aller jusqu'au Maroc, ça va être compliqué de prendre le train.
C'est vrai.
Donc il y aura forcément de l'avion, quoi.
Voilà, donc c'est un peu l'escalade du qui fera le plus, surtout sur les coûts estimés des organisations. Vous en avez parlé, Anne-Françoise. Les États-Unis en 1994, c'était moins de 1 milliard. Le Qatar en 2022, c'est 220 milliards par rapport à ça. Mais là, c'était vraiment l'extrême. Le Brésil en 2014, c'était 15 milliards. Et en Russie en 2018, c'était 11,6 milliards.
Non, en fait, c'est clairement.
Donc voilà, c'est.
Clairement, n'importe quel pays ne peut plus accueillir ce genre.
Maintenant, la Coupe du Monde coûte cher.
Que ce soit les Coupes du Monde, que ce soit les Jeux Olympiques. En fait, y a plein de pays qui ne veulent plus les accueillir parce que ça coûte beaucoup trop cher.
C'est pour ça. Et puis, quand c'est comme ça, quand on l'a à domicile, on ne va même pas jusqu'au bout. Alors, faux, en 98, on y allait.
Et on se rappelle des stades qui n'étaient pas finis aussi au Brésil quand il y avait la Coupe du Monde au Brésil. Ouais.
Peut-être qu'il va y avoir plus d'initiatives comme au Qatar. Alors, c'est une initiative, c'est une goutte d'eau dans un océan de sable. Mais pas sûr de cette expression, d'ailleurs. Mais les stades recyclables avec les containers. Il y a le stade qui était comme ça au Qatar.
Il y a un stade qui a été démontable. Voilà. Ils ont quand même construit 7 autres stades qui servent à que dalle. Hein, parce qu'il n'y a pas de sport co au Qatar, en fait. Enfin, certainement pas pour cette envergure-là, en fait.
Mais peut-être que ces petites initiatives vont être... Je sais pas, j'essaye de trouver, de sortir la tête hors de l'eau d'abord, et puis ensuite de trouver des choses positives.
Après, c'est toujours l'occasion d'investir du coup de l'argent dans une rénovation aussi des infrastructures. Donc je pense que ça, c'est profitable quand même au pays. Je pense au Maroc, par exemple, ce sera peut-être l'occasion d'avoir des gros stades construits. Enfin, c'est aussi des manifestations qui poussent toute une culture sportive.
Au Maroc, les supporters sont incroyables. Hein, sur les derbies, les supporters sont...
Ah non, mais je pense qu'au Maroc, ça va être super. Ça va être super. Après, par contre, mis à part le fait de commémorer les 100 ans en Uruguay, j'avoue, je comprends pas.
On aurait pu
pas
tout simplement faire un petit écusson, un petit mot, un petit quelque chose.
Non, mais clairement, c'est juste pour leur faire plaisir. Enfin,
mais ça ramène pas
assez d'argent. Quelques jours avant la Coupe du Monde, tu fais un match en Uruguay qui voit les deux finalistes de l'époque s'affronter pour faire un remake de la finale. Voilà,
c'est une super idée, par exemple. Voilà,
vous voulez pas postuler à la FIFA, par exemple? Non, parce qu'après, vous pouvez plus venir dans la mission.
Le costard me va beaucoup moins bien que.
Que le maillot du Bétis que vous avez aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de femmes à la FIFA.
C'est une mafia sans nom, la FIFA. Bref. Voilà, Gianni Infantino va rester encore quelques temps.
Je préfère rentrer à l'IRB.
À la tête de la FIFA.
Il y a des choses à changer.
Très bien, justement, l'IRB, tout de suite, on repart le rugby. Et alors, dans ce débat qui va pas finalement en être un, on va essayer de répondre dans un premier temps à cette question. Est-ce l'Afrique du Sud qui a gagné ce quart de finale ou est-ce l'équipe de France qui l'a perdu? Ça, c'est la question qui va lancer un petit peu ce débat, ce débrief autour de ce match. France-Afrique du Sud, on rappelle, c'était dimanche soir à 21h. Score final 29-28. Alors, qui c'est qui a gagné? Qui a gagné, qui a perdu?
Ben, faut voir qui est-ce qui part en demi, hein. Je pense que...
Oui, non, mais l'Afrique du Sud a gagné ce match sur le papier.
Moi, je trouve que les Français ont pas déjoué tant que ça. J'y ai cru très longtemps sur le match. Il y a eu des beaux trucs, on a fait du jeu. Pour le coup, on a fait beaucoup plus de jeux que les Sud-Africains qui n'ont pas enchaîné. Erwan pourra nous le dire avec les stats.
Oui, il a l'ordinateur.
Moi, je pense que s'ils ont fait 4 passes de suite, ils étaient au bout de leur vie, quoi. Et c'est hyper frustrant. Et c'est hyper frustrant. La conclusion, c'est ça, en fait. C'est qu'on est très frustré de voir cette équipe...
Frustré de ne pas avoir réussi à être meilleur ou frustré parce qu'il y a eu des lacunes qui auraient pu être évitées.
Alors, il y a eu des boulettes. C'est clair qu'il y a eu de la grosse boulette quand même.
Ah oui, là c'est un plat de spaghetti entier.
Mais je pense pas qu'on puisse dire que les Français ont mal joué sur le match. À mon avis, il y a eu des erreurs, mais je dirais pas que globalement l'équipe a mal joué.
Mais est-ce que beaucoup d'erreurs ne mènent pas à mal jouer? Parce que là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Les 3 essais déjà, Erwan peut-être pourra confirmer ou pas. Hein, d'ailleurs, les 3 premiers essais sud-africains, si on fait pas de boulettes, ils ont pas de points à la mi-temps.
Oui, enfin, au moins les 2 premiers, ça c'est sûr.
Après, avec des scies, on met Paris en bouteille.
Oui, non, mais c'est ça.
Mais voilà.
Parce que, on est à 1 point à la fin quand même. C'est hyper serré.
Oui,
il manque que dalle à la fin. Il manque une pénalité. Oui. Voilà, on va pas revenir tout de suite sur l'arbitrage, mais l'interception de Colby, par exemple. Si la transformation elle passe, je suis désolé, on a 2 points de plus à la fin. Et là, on passe, en fait.
Enfin, oui, mais si Colby met son drop, ça change aussi les choses.
Bah, enfin, peut-être, mais voilà, il y a des
beaucoup de choses, mais...
On n'est à pas grand-chose, quand même.
Sur les trois erreurs des essais, déjà, trois erreurs en première mi-temps qui mènent à des essais, heureusement que...
Mais après, les essais ne sont pas tout faits sur les erreurs. Hein. C'est pas trois...
Non, mais face à une équipe sud-africaine, on ne peut pas faire des erreurs.
Voilà,
ce n'est
parce
pas
que c'est sûr. Parce que c'est une équipe sud-africaine.
Il ne faut pas oublier que c'est
l'Afrique
du Sud, quand même.
Moi, je serais plutôt partant pour l'idée que c'est les Springboks qui ont gagné, parce que, justement, ils ont eu des occasions, mais qui étaient quand même... Les erreurs françaises, elles sont loin de l'embut.
Il y en a eu beaucoup.
Ouais, mais il faut être capable de les lire aussi, les erreurs. Enfin, il faut en profiter.
Quand on voit le rythme qu'il y avait, il n'y en a pas eu beaucoup, sincèrement. Il y en a eu 3, 4. Enfin, ça dépend. Tout du moins, je prends jusqu'à pendant la première heure de jeu. Parce que.
Oui, après, il y a
voilà,
c'est un peu l'entrée
du banc a été une humiliation pour l'équipe
de
France.
Oui, ça a été catastrophique. C'est là où on se dit que le vivier n'est pas assez important, malgré... On a de très très bons joueurs, mais derrière, quand on les sort, y a un trou assez immense. Quand
surtout
même.
Face à cet adversaire.
Ouais, non, mais c'est ça.
Il faut rappeler que l'Afrique du Sud, c'est le plus gros vivier au monde de joueurs de rugby.
Mais après, est-ce que Fabien Galthié ne le sait pas d'avance, ça, qu'il va se faire concasser pendant les 30 dernières minutes?
Mais comment il ne peut rien faire d'autre? Il n'a plus personne.
Non, mais il ne va pas créer des joueurs.
Je ne sais pas, dans la gestion, dans. Voilà. Il le sait qu'en face, c'est des taureaux boostés à tout ce qu'ils veulent, qu'il va se faire briser pendant les 30 dernières minutes. Mais il n'y a pas un plan comme ça, peut-être. Je ne sais pas, Fabien Galthié qui nous sort la science.
Il ne peut pas inventer les joueurs, en fait. Il les a pas.
Non, mais il peut peut-être essayer de trouver un turnover au niveau des joueurs. Voilà.
Non, mais s'il n'a pas les joueurs, il n'a pas les joueurs. Et notamment, c'est sur la première ligne qu'on a pêché. Alors après, Bourgarit, il n'a pas eu de touche à faire, donc il n'a pas trop pu se montrer. Mais dans la pacte, il n'a pas été génial. Voilà, vous parliez du fait que j'ai les stats, elles sont juste devant moi. Effectivement, la première ligne remplaçante, elle avance de 5 mètres après son entrée en jeu. Et c'est pas la première ligne, en fait, dans son globalité, parce que Bourgarit et Aldeguerri, ils n'avancent pas avec le ballon. Et Wardy, il avance de 5 mètres. Et vous vous rappelez de qui lâche le ballon à la fin? C'est Wardy. Et en fait, c'est 5 mètres. C'est tout simplement, c'est l'avancée qu'il fait où il vomit le ballon. Et il fait pas perdre la France, mais qui amène à la fin du match, tout du moins.
Il est rentré quand, Bourgarit?
Bonne question.
Moi j'ai l'impression qu'il est rentré 2 minutes avant la fin, en fait. Mais
voilà, ça aurait pas pu être. Je sais pas, c'est un petit peu les bras m'en tombent. Honnêtement, répondez-moi honnêtement, le drop à la 80e, si le ballon était un petit peu mieux.
On était beaucoup trop lent, on n'avait pas du tout assez avancé.
Thomas Ramos n'est pas un joueur de drop.
Si Reda Wardy avance un petit peu,
Mais si on voulait gagner avec des drops, il fallait faire venir Camille Lopez. Hein, je veux dire, il faut juste gagner.
Il fallait avancer en fait. T'es pas en position de faire un drop quand on les voit sur les 3 dernières minutes. Les joueurs français, ils ont le ballon dans les mains, ils savent pas où ils sont, ils savent pas avancer. Même Ramos, en fait, c'est pas que les premières lignes, c'est tout le monde. Et ils sont paumés. Et avant de poser un drop, il faut avancer parce que sinon. Sinon, tu te fais intercepter, tu te fais monter mais, dessus, en fait.
Ils n'étaient pas préparés à ça en fin de match, parce qu'on les sent perdus.
Mais tu peux être préparé, mais au bout d'un moment...
Ils sont désespérés, surtout, quoi.
C'est une question physique aussi. Moi, je pense qu'ils avaient vraiment la tête sous l'eau, quoi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Et après, le rugby, c'est des phrases bateau qu'on entend des fois dans les conférences de presse d'après-match, mais quand tu n'as pas de pack capable de te protéger, les arrières, et particulièrement, par exemple, le numéro 10, il n'est pas protégé, il peut rien faire, quoi. Et donc le drop, c'est hyper compliqué quand t'as une montée qui est hyper agressive de la part des Sud-Africains qui jouent comme si on était à la 20e alors qu'on est à la 80e, notamment parce que les sortants du banc sont vraiment très très forts d'un point de vue agressivité défensive. Et notamment, je pense que c'est pour ça que voilà, il y avait De Clercq et Pollard qui étaient sur le banc. C'était pour avoir ce côté gestion qui arrivait à la fin du match. En fait, enflammer les Français au début de match avec Libok et Reinach, qui sont deux excellents joueurs pour jouer vraiment ballon en main. Faut pas croire que c'est des seconds couteaux. Hein. C'est des joueurs qui seraient titulaires dans énormément de pays du monde. Surtout Reinach, qui est vraiment un joueur fabuleux. Enfin, voilà, vous regarderez les matchs du MHR, mais bon, c'est pas toujours très intéressant les matchs du MHR, mais en tout cas, ce joueur-là, très intéressant.
Ça, c'est dit.
mais voilà, je pense que le but, c'était d'épuiser pendant la première heure et surtout la première mi-temps, d'épuiser les Français. Et c'est un record. Il y a eu 6 essais en mi-temps d'un quart de finale. C'est un record, ça n'avait jamais été fait. Et ils étaient épuisés. 45e, il a changé 3 joueurs. 50e, il a rechangé 3 joueurs. 60e, il y avait tout le banc sud-africain qui était rentré et qui était performant. Moi, je pense que c'était prévu de la part des Sud-Africains. Ils ont très bien joué leur stratégie. Et Galtier, à côté, a fait une erreur, notamment, je pense, en mettant Macalou. Il aurait dû mettre Jaminet, parce que la profondeur au pied de Jaminet aurait permis de libérer cette pression, là où on voit que Jalibert n'a pas réussi à trouver la pénale touche. Parce qu'il a peut-être forcé.
Il la prend de l'extérieur du pied en forçant, mais, peut-être sérieux, que ça fait beaucoup de choses.
Ouais. Ouais. Non mais franchement, ça, c'est impardonnable. Enfin, moi je veux bien leur pardonner plein de trucs, mais enfin.
Penaud n'a pas été aussi exceptionnel.
Oui. Il y a le renvoi des 22 directs.
Il y a un renvoi de Vano, de Ramos
de direct,
qui est pourri. Non mais enfin, on avait l'impression de voir les plus belles gaffes de Michalak, quoi.
Oui.
Non, mais enfin, une pénale touche en arrière, mais sérieusement,
elle est belle celle-là.
En quart de finale de la Coupe du Monde,
et on se moquait il y a quelques
temps.
Quand
t'es à la ramasse et que t'as besoin d'aller.
C'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait 20 minutes qu'on prend l'eau.
Non, mais c'est clair, on a juste besoin.
Mentalement, ça a craqué.
Ah, vachement, oui.
À ce niveau-là, à ce niveau de professionnalisme, à ce niveau, ça a craqué. La pression,
t'es pas préparé
en France,
à une phase éliminatoire de Coupe du Monde. Tu la vis, tu la prends comme tu peux. Et là, en face, t'avais des champions du monde. Eux, ils en avaient déjà fait une, ils avaient déjà gagné. Bon, certes, ils avaient affronté le Japon qui n'était pas du même acabit, qui, on va dire, entre guillemets, avait déjà réussi sa Coupe du Monde, rien qu'en se qualifiant en quart. Mais eux, ils savaient déjà comment gagner une Coupe du Monde. Donc, au niveau mental, ils étaient vraiment remplis à ras-bord, et nous on était des minots, j'ai presque envie de dire, même s'il n'y avait pas forcément que des hyper jeunes, et les quelques qui avaient connu étaient d'une génération qui était tristoune, pour être gentil, on va dire, qui avait connu qui étaient les héritiers de 2015 en 2019 et qui avaient encore perdu d'un point, parce qu'en 2019 on perd d'un point contre Gallois aussi.
Ce point-là, il coûte cher au final. Il y a eu 2011, il y a eu encore une fois les Gallois, avec ce qui s'est passé évidemment. Là, dimanche soir, ça fait beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a atteint le plafond de verre de cette équipe ?
Cette équipe actuelle ? Non, je pense pas.
Parce que dans 4 ans, dans 4 ans, c'est en Australie, super, il fera beau, c'est loin, magnifique. Tout le monde aura pris en maturité, il y aura eu le tournoi destination qui sera. Qui sera passé plusieurs fois, il y aura eu plein de choses, il peut s'en passer des choses en 4 ans.
Non mais 4 ans, c'est dans un siècle en fait.
Voilà, c'est ça.
Enfin, tu peux pas prévoir maintenant quel état de forme. Enfin, là, on avait tous les voyants ouverts avant qu'on commence se blesser là. On avait les voyants ouverts, on avait une confiance, on s'était chez nous, le public était là.
Est-ce qu'on verra la France de notre vivant remporter une Coupe du Monde ?
Je pense que là, on est un peu pessimiste parce que
sous le coup du choc un peu. Quoi, mais...
J'espère.
Combien de finales jouées, combien de finales perdues ? C'est assez terrifiant.
Trois finales perdues.
Il y a une guigne française, comment ça se passe ?
Clairement, ils en ont joué plein avant d'en gagner.
Ouais,
hein.
Mais là, 14, moi, je vous cache pas que là, moi, j'abdique. Hein. Je vais mettre au cricket, qui sera aux Jeux Olympiques d'ailleurs. Mais non, mais là, c'est pas. Il y a une chose. Est-ce qu'il y a un blocage ? Comment on fait ? C'est terrible. Il y a beaucoup de réponses. À chaque fois, on n'est pas loin de faire un exploit. Honnêtement, on passe les Sudaf, derrière c'est l'Angleterre qui vaut pas un pichet, derrière c'est la finale contre les Néo-Zélandais. Je dis pas qu'on aurait gagné contre les Néo-Zélandais qui eux sont incroyables aussi, mais est-ce qu'il y a pas il y a un truc.
Je pense qu'il y a deux sujets dans cette question. Il y a déjà d'une la dimension psychologique, parce que les Irlandais qui perdent en quart contre les Néo-Zélandais, moi personnellement, je sais que vous avez dit oui, ils ont jamais passé de quart, c'est hyper difficile psychologique pour eux.
Moi je l'ai vu arriver.
Ouais, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qui l'imagine il y a encore 2-3 semaines, quoi. Alors que les Néo-Z, ils sont au fond du seau, ils se sont fait battre par la France, alors autant te dire qu'ils sont. On sait pas où, ils savent pas où ils habitent.
C'est une équipe qui monte en puissance, la Nouvelle-Zélande. Oui, on le voit que.
Il y a 2-3 semaines, t'aurais pas pu le prévoir, un truc comme ça.
Ils étaient montés en puissance contre l'Uruguay, la Namibie.
Ça va,
et l'Italie.
Ils ont claqué l'Italie. Ouais, j'ai peur, quoi. Ils ont battu personne.
Ils ont jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde. Là, ça arrive, et eux, ils sont en demi.
Ils se sont fait écraser par les Sudaf en pré-coupe du monde. On les a battus.
Et ils sont en demi.
Alors
que nous, on s'est glorifié
d'un record. Il y a une dimension psychologique qui est incroyablement puissante.
Qu'est-ce qui manque pour battre ça ? Il faut un coach mental.
Non, je pense qu'il faut des joueurs qui ont déjà gagné. Les All Blacks, ils ont déjà gagné. Il y a plusieurs All Blacks.
Dans ce cas-là, on a un sacré wagon de retard. Hein,
D'une génération à l'autre, t'as pas toute l'équipe qui a déjà joué, qui a déjà gagné et tout ça. Enfin, c'est.
Parce qu'il y a des joueurs qui ont déjà gagné, vous m'excuserez, mais en équipe de France, il y en a. Il y a les Dupont, il y a Galtier, c'est pas
non plus
n'importe
qui. Mais au
niveau
international, il y a un grand chelem.
Mais un grand chelem, mais avant ça, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait même rien. C'était terrifiant à l'époque.
Bah oui, c'est un premier grand chelem en 10 ans. Il y a un côté euphorique. Moi, je pense qu'il faut les habituer à la gagne. Et je pense qu'il faut les habituer à jouer des espèces de finales, entre guillemets, à jouer comme des finales.
Et puis, bon, le match contre l'Irlande qui a eu cet hiver, bon, effectivement, il y avait eu des soucis sur certains faits de jeu, mais globalement, le niveau de jeu était très élevé. On a perdu et les Irlandais n'étaient pas non plus. Voilà, c'était pas des peintres. Et au final, c'était un peu presque un exercice, justement, de ces matchs de phase éliminatoire de Coupe du Monde qu'on n'avait pas réussi. Donc après, voilà, je pense qu'il faut se roder sur ces matchs. Après, j'ai aussi un peu peur parce que l'Irlande va avoir des joueurs qui vont partir.
Mais pas que vous avez peur.
Non. Non. Alors, moi, je pense qu'on va très bien se sortir au niveau européen les années qui suivent. Eh oui. Mais notamment parce que, en fait, le niveau est...
hyper bas, quoi. Parce qu'en fait, quand on voit que sur nos matchs du tournoi Destination, en fait, on n'a pas le niveau de ce qu'on peut retrouver en Afrique, en hémisphère sud. Et finalement, on a ce décalage de niveau. En fait, on croit qu'on est bon. Et puis, comme on voit bien qu'en fait, il y a un décalage entre leur niveau et le nôtre, on doute très vite.
Donc là, on s'attend à rouler sur les six nations les deux prochaines années, là.
Un peu d'humilité.
Oui, faut pas trop s'emballer.
Puisque le 6 nations c'est un peu faible, on s'attend à avoir des finales France-Irlande.
Mais disons qu'on est avantagé parce que.
Ce qui est pas impossible, parce que
l'Irlande ils perdent Sexton, parce que l'Irlande.
Oui,
voilà,
il y a une génération qui tourne quand même.
C'est la fin d'un cycle en Irlande, donc ils vont devoir se reconstruire. D'autant plus le prochain.
Tu vois, comment est-ce qu'on peut prévoir dans 4 ans? Parce qu'en fait, il y a 3 ans. Les poules aussi, elles ont été établies il y a 3 ans. Beaucoup et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps.
Alors, du coup, on s'aborde, qu'on fait? Est-ce qu'on la joue futile et malin à l'anglaise?
Non, le règlement va changer, ils vont établir les poules beaucoup plus tard.
Oui, après, ils ont dit on essaie de le faire beaucoup plus tard, mais en permettant à chacun d'avoir les conditions de pouvoir organiser son voyage vers la Coupe du Monde convenablement.
Pas se mettre de pression, quoi.
Beaucoup plus tard, ça va être 3 semaines après, quoi. Donc,
Oula, attention, vous tapez du poing sur la table.
Non, mais World Rugby, je pense que sur les calendriers, on peut pas forcément leur faire confiance normalement.
Donc, pour l'arbitrage, on n'en parle pas. L'arbitrage, ok, c'était pas très bon, mais c'est pas l'élément de la défaite du 15 de France.
C'était pas si mauvais que ça.
On est un petit peu chauvin, on peut se dire c'est la faute de l'arbitre et ça nous fait du bien de se défouler sur lui. Faut savoir raison garder, au moins se mettre sur ça, mais ça a pas été l'élément.
Quand tu dois gagner, tu dois gagner malgré l'arbitrage. Enfin, peu importe en fait.
C'est pas à cause de l'arbitre. Après, si le ballon glissait sponsor margarine, c'est pas de la faute de l'arbitre. Si on met deux essais cadeaux, si Colby fait 8 secondes au 100 mètres,
il fait 3 secondes au 20 mètres.
On parlait des erreurs tout à l'heure. On se rappelle que Willy Leroux, premier ballon qu'il touche, il fait un en avant à 60 mètres des perches sud-africaines, plein axe. Ils auraient peut-être pu essayer de le prendre au pied. Bon, c'était super loin comme 60 mètres. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas que nous quand on fait des erreurs.
Il y a des moments où les Sud-Africains, ils touchaient pas un copec, ils faisaient des passes. On avait l'impression que c'était
les
Fidjiens.
On n'a pas mis de points pendant le carton jaune de Etsebet.
Ça c'est un problème.
Pendant c'est dramatique quand même. On n'a pas su profiter du départ d'un des éléments essentiels de cette équipe. Enfin, essentiel non,
il sort juste avant la mi-temps. Oui. Et en fait, je pense que il y a quand même un tournant à la mi-temps. Il y a quand même un tournant psychologique.
Et dans l'effectif, parce que aussi. La charnière, on rentre à la 42e.
On peut nourrir des regrets. Où on se dit, ils étaient meilleurs. L'Afrique du Sud a gagné, c'est pas la France qui a perdu.
On est à un point. On est à rien du tout. Ça se joue sur que dalle.
Un point pour le match nul, pas pour la victoire.
Non, mais d'accord. Tu peux pas scorer un point au rugby. Donc action de jeu, n'importe laquelle. Ouais. On est à un score d'être en demi-finale.
Un drop à la 80e.
Oui, bon.
Ouais,
une sextone version français où on met un drop de 55 mètres.
Ou une transformation, ou une pénalité, ou plein de choses. Enfin, regarde le 14e. Je sais plus la minute, mais le deuxième essai qui chauffe, là, on est à 5 mètres de la ligne. Il y a une espèce d'interception volleyage. On allait le mettre, cet essai.
Les planètes
n'étaient
pas alignées.
Je pense qu'il y
a quelques moments aussi. Au début, par exemple, au début, il y a Movaka vers la 20e minute, il me semble, ou 15e plutôt, qui s'enfuit tout seul. Il transperce la ligne et il est en plein axe.
Mais parce que Movaka, il est incroyable.
Il a été incroyable, mais il n'y a personne qui vient au soutien. Et vraiment,
Jelonge l'a fait aussi. À un moment, il part tout seul, il va hyper vite, il n'y a personne au soutien et on se fait retourner.
Jelonge hyper vite, c'est un pléonasme.
Oula, attention Erwan, vous touchez à quelque chose de sensible là. Non, non, c'était très bien quand même.
Non, voilà. Il est parti comme une fusée sur cette action-là, mais je pense qu'il a comme surpris tout le monde. Comme un frelon.
Comme un frelon. En tout cas, voilà, les planètes n'étaient pas alignées, le mal est fait. On espère que Marty McFly va vite arriver pour qu'on refasse ce match et qu'on l'oublie ou qu'on gagne ou qu'on fasse quelque chose. En tout cas, rendez-vous dans 4 ans donc pour l'équipe de France en Australie.
Bah,
en finale dans 4 ans.
Ouais, et puis il
y a que ça à attendre.
Il y aura d'autres bons moments avant, je pense aussi. C'est quand même une belle équipe. Ils proposent du jeu qui nous régale quand même. Enfin, voilà, les Six Nations, les tournées d'automne.
On peut s'attendre à quoi pour les Six Nations?
Je pense qu'on va être la seule équipe en confiance à arriver. Parce que
confiance ou avec la hargne? Ou avec le couteau entre les dents?
Quelque chose à prouver. La hargne, il y en aura plein qui l'auront. Il y a encore une belle ossature de l'équipe d'Irlande qui est encore là. Ils auront la hargne aussi. Mais par contre, ils seront en reconstruction. Les Gallois, ils ont montré de belles choses. Alors, pas en quart, ils ont été désastreux. Mais de leur phase de poule, ils ont montré vraiment des belles choses. Leur préparation, ils ont montré vraiment des belles choses. Ils vont être en reconstruction eux aussi. Les Écossais, ils vont devoir se remettre d'un sacré coup derrière la tête, qui sont venus avec la meilleure équipe qu'ils ont eue depuis le début du siècle. Et au final, ils y sont pas passés. Donc, voilà, je pense qu'on est un peu la seule équipe qui va arriver avec un peu de continuité. Sauf au poste de pilier droit. Et ça, il va falloir faire planter des piliers droits quelque part dans un champ parce qu'on en aura besoin dans pas longtemps.
Bon, on ira peut-être du côté du Gers. Il y a eu beaucoup cette génération d'Antoine Dupont, voilà, c'est incroyable. Peut-être que le futur de l'équipe de France est à côté de vous, vous qui faites du sport en club, voilà. Louis Bielbiaré, par exemple, lui, on l'a pas vu arriver.
Ah oui. C'est nulle part.
Enfin, personne l'a vu arriver, il court trop vite. De toute façon, ça c'est pas possible.
C'est ça.
On a essayé de se faire du bien, essayer de se dire bon, finalement, voilà. Mais ça fait toujours encore un peu mal. On a tiré le pansement trop doucement à mon avis. Merci pour ce débat qui n'en était pas un, mais on est toujours encore un petit peu déçus. Tout de suite, on va donner nos pronostics pour le prochain match. Le prochain match, mais pas le prochain match de l'équipe de France de rugby. Non, on va parler foot cette fois-ci avec un bon petit match comme on les aime en octobre, le 17, ce mardi, France-Écosse à 21h. Attention, c'est un match qui ne compte pour rien. L'équipe de France est déjà qualifiée, c'est donc un match amical. Allez, on va commencer par, au hasard, Anne-Françoise. Vous avez 30 secondes pour nous donner votre pronostic. Et pourquoi? Attention, top départ.
Alors, pourquoi? Moi, je vais vous donner juste mon pronostic. Je pense que l'Écosse va gagner. Juste parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Parce que c'est un match en plein hiver. Non, parce qu'on n'est pas en
plein hiver. En plein hiver, ça fait 30 l'après-midi.
C'est ça. Non, mais c'est un match qui... Enfin, t'es en pleine semaine.
Un match pourri, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le 1-0.
Ça, moi, je me rappelle des matchs style France-Féroé, 10-0, des trucs comme ça. Voilà, tu sais, les matchs de qualification un peu pourris qui servent à rien.
Très bien. Surtout que celui-là, il est même pas qualificatif. Il sert vraiment à rien.
Franchement, je pense que la France va perdre.
C'est en France en plus, hein, donc voilà. La France va perdre. Eh ben, dites donc. C'est un petit peu notre Basile à nous. Erwan, attention, top départ. 30 secondes.
Eh ben, moi, ça me surprend parce que moi aussi, je voulais dire que l'Écosse allait gagner. Donc voilà, je me dis qu'on n'est pas très. Est-ce que c'est le pessimisme qui nous gagne maintenant que la France a été éliminée à la Coupe du Monde de rugby? Mais voilà, moi, l'Écosse, je me dis, c'est deux nations qui sont qualifiées pour l'Euro 2024. Et l'Écosse, ils ont fait une très belle campagne de qualification. Et voilà, comme dit, un match de semaine amical qui sert pas à grand chose à part à faire un match pour faire un match. Ouais, je vois bien l'Écosse gagner, peut-être un but de McTominay qui se prend les pieds dans la pelouse et qui tape dans le ballon sans faire exprès, voilà, un truc comme ça.
Voilà, vous êtes catastrophique. Heureusement que les pronostics, on n'est pas sponsor par une célèbre marque de Paris Sportif parce qu'on est catastrophique.
Moi j'ai eu 0 sur 4 sur les quarts de finale.
C'est incroyable.
Voilà.
C'est...
Quand on en avait parlé, toutes les équipes que j'ai dit qu'elles allaient aller en quart de finale, aucune n'est allée en quart de finale.
Voilà.
Par contre, il y a un truc dont on n'a pas parlé, hein. C'est quand même que l'hémisphère nord, et on l'a un peu dit, hein, mais...
catastrophique. Mais heureusement qu'il y a l'Angleterre.
C'est 1 sur 4. Hein, et ceux qui sortent, c'est les Anglais.
C'est les pires de tous ceux qui étaient qualifiés.
Ah ouais, c'est clair.
Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu les Anglais du pronostic? Ah non, parce qu'eux, ils arrivent à un demi. Merci. ça fait mal, voilà. Merci d'avoir été avec nous, Anne-Françoise, aujourd'hui.
Avec joie.
Merci, Erwan, aussi, de votre présence.
Avec plaisir.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission.